Chapitre 5. Sur la piste. La violence du coup étourdit le jeune Beautrelet. Au fond, bien qu'il eût obéi en publiant son article à un de ces mouvements irrésistibles qui vous font dédaigner toute prudence, au fond, il n'avait pas cru à la possibilité d'un enlèvement. Ses précautions étaient trop bien prises. Les amis de Cherbourg n'avaient pas seulement consigne de garder le père Beautrelet, il devait surveiller ses allées et venues, ne jamais le laisser sortir seul, et même ne lui remettre aucune lettre sans l'avoir au préalable décachetée. Non, il n'y avait pas de danger. Lupin bluffait. Lupin, désireux de gagner du temps, cherchait à intimider son adversaire. Le coup fut donc presque imprévu, et toute la fin du jour, dans l'impuissance où il était d'agir, il en ressentait le choc douloureux. Une seule idée le soutenait. Partir, aller là-bas, voir par lui-même ce qui s'était passé et reprendre l'offensive. Il envoya un télégramme à Cherbourg. Vers 8 heures, il arrivait à la gare Saint-Lazare. Quelques minutes après, l'express l'emmenait. Ce n'est qu'une heure plus tard, en dépliant machinalement un journal du soir acheté sur le quai, qu'il eut connaissance de la fameuse lettre par laquelle Lupin répondait indirectement à son article du matin. « Monsieur le directeur, je ne prétends point que ma modeste personnalité, qui, certes, en des temps plus héroïques, eût passé complètement inaperçue, ne prenne quelque relief en notre époque de volerie et de médiocrité. Mais il est une limite que la curiosité malsaine des foules ne saurait franchir sous peine de déshonnête indiscrétion. Si l'on ne respecte plus le mur de la vie privée, quelle sera la sauvegarde des citoyens ? Invoquera-t-on l'intérêt supérieur de la vérité ? Vain prétexte à mon égard, puisque la vérité est connue et que je ne fais aucune difficulté pour en écrire l'aveu officiel. Oui, mademoiselle de Saint-Véran est vivante. Oui, je l'aime. Oui, j'ai le chagrin de n'être pas aimé d'elle. Oui, l'enquête du petit Beautrelet est admirable de précision et de justesse. Oui, nous sommes d'accord sur tous les points. Il n'y a plus d'énigme. Eh bien, alors ? Atteint jusqu'aux profondeurs même de mon âme, tout saignant encore des blessures morales les plus cruelles, je demande qu'on ne livre pas davantage à la malignité publique mes sentiments les plus intimes et mes espoirs les plus secrets. Je demande la paix. La paix qui m'est nécessaire pour conquérir l'affection de mademoiselle de Saint-Véran et pour effacer de son souvenir les 1000 petits outrages qui lui valaient de la part de son oncle et de sa cousine, ceci n'a pas été dit, sa situation de parente pauvre. Mademoiselle de Saint-Véran oubliera ce passé détestable. Tout ce qu'elle pourra désirer, fût-ce le plus beau joyau du monde, fût-ce le trésor le plus inaccessible, je le mettrai à ses pieds. Elle sera heureuse. Elle m'aimera. Mais pour réussir, encore une fois, il me faut la paix. C'est pourquoi je dépose les armes. Et c'est pourquoi j'apporte à mes ennemis le rameau d'olivier. Tout en les avertissant, d'ailleurs, généreusement, qu'un refus de leur part pourrait avoir pour eux les plus graves conséquences. Un mot encore au sujet du sieur Arlington. Sous ce nom se cache un excellent garçon, secrétaire du milliardaire américain Cooley, et chargé par lui de rafler en Europe tous les objets d'art antique qu'il est possible de découvrir. La malchance voulut qu'il tombât sur son ami Étienne de Vaudrex, alias Arsène Lupin, alias moi. Il apprit ainsi, ce qui d'ailleurs était faux, qu'un certain monsieur de Gèvres voulait se défaire de 4 Rubens, à condition qu'ils fussent remplacés par des copies et qu'on ignorât le marché auquel il consentait. Mon ami Vaudrex se faisait fort de décider monsieur de Gèvres à vendre la chapelle Dieu. Les négociations se poursuivirent avec une entière bonne foi du côté de mon ami Vaudrex, avec une ingénuité charmante du côté du sieur Arlington. Jusqu'au jour où les Rubens et les pierres sculptées de la chapelle Dieu furent en lieu sûr, et le sieur Arlington en prison. Il n'y a donc plus qu'à relâcher l'infortuné américain, puisqu'il se contenta du modeste rôle de dupe, à flétrir le milliardaire coulé, puisque, par crainte d'ennui possible, il ne protesta pas contre l'arrestation de son secrétaire, et à féliciter mon ami Étienne de Vaudrex, alias moi, puisqu'il venge la morale publique en gardant les 500 000 francs qu'il a reçus par avance du peu sympathique coulé. Excusez la longueur de ces lignes, mon cher directeur, et croyez à mes sentiments distingués. Arsène Lupin. Peut-être Isidore pesait-il les termes de cette lettre avec autant de minutie qu'il avait étudié le document de l'aiguille creuse. Il partit de ce principe, dont la justesse était facile à démontrer, que jamais Lupin n'avait pris la peine d'envoyer une seule de ses amusantes lettres aux journaux sans une nécessité absolue, sans un motif que les événements ne manquaient pas de mettre en lumière un jour ou l'autre. Quel était le motif de celle-ci? Pour quelle raison secrète confessait-il son amour et l'insuccès de cet amour? Était-ce là qu'il fallait chercher? Ou bien dans les explications qui concernaient le sieur Arlington? Ou plus loin encore, entre les lignes, derrière tous ces mots dont la signification apparente n'avait peut-être d'autre but que de suggérer la petite idée mauvaise, perfide, déroutante. Des heures, le jeune homme enfermé dans son compartiment resta pensif, inquiet. Cette lettre lui inspirait de la défiance, comme si elle avait été écrite pour lui et qu'elle fût destinée à l'induire en erreur, lui, personnellement. Pour la première fois, et parce qu'il se trouvait en face non plus d'une attaque directe, mais d'un procédé de lutte équivoque, indéfinissable, il éprouvait la sensation très nette de la peur. Et songeant à son vieux bonhomme de père, enlevé par sa faute, il se demandait avec angoisse si ce n'était pas folie que de poursuivre un duel aussi inégal. Le résultat n'était-il pas certain? D'avance, Lupin n'avait-il pas parti gagné? Courte défaillance. Quand il descendit de son compartiment, à 6 heures du matin, réconforté par quelques heures de sommeil, il avait repris toute sa foi. Sur le quai, Froberval, l'employé du port militaire qui avait donné l'hospitalité au père Beautrelet, l'attendait, accompagné de sa fille Charlotte, une gamine de 12 à 13 ans. « Eh bien !» s'écria Beautrelet. Le brave homme se mettant à gémir, il l'interrompit, l'entraîna dans un estaminet voisin, fit servir du café et commença nettement, sans permettre à son interlocuteur la moindre digression, « Mon père n'a pas été enlevé, n'est-ce pas? C'était impossible !»«
Impossible. Cependant, il a disparu. »«
Depuis quand ?»«
Nous ne savons pas. »«
Comment ?»«
Non. Hier matin, à 6 heures, ne le voyant pas descendre, j'ai ouvert sa porte. Il n'était plus là. »«
Mais avant-hier, il y était encore. »«
Oui. Avant-hier, il n'a pas quitté sa chambre. » Il était un peu fatigué et Charlotte lui a porté son déjeuner à midi et son dîner à 7 heures du soir.
C'est donc entre 7 heures du soir avant-hier et 6 heures du matin hier qu'il a disparu.
Oui, la nuit d'avant celle-ci. Seulement...
Seulement ?
Eh bien, la nuit, on ne peut pas sortir de l'arsenal.
C'est donc qu'il n'en est pas sorti ?
Impossible. Les camarades et moi... On a fouillé tout le port militaire.
Alors, c'est qu'il est sorti.
Impossible. Tout est gardé.
Beautrelet réfléchit, puis prononça. Dans la chambre, le lit était défait.
Non.
Et la chambre était en ordre?
Oui. J'ai retrouvé sa pipe au même endroit, son tabac, le livre qu'il lisait. Il y avait même au milieu de ce livre... Cette petite photographie de vous qui tenez la page ouverte.
Faites voir. Froberval passa la photographie. Beautrelet eut un geste de surprise. Il venait, sur l'instantané, de se reconnaître, debout, les deux mains dans les poches, avec autour de lui une pelouse où se dressaient des arbres et des ruines. Froberval ajouta.
Ce doit être le dernier portrait de vous que vous lui avez envoyé. « Tenez, par derrière, il y a la date. 3 avril. Le nom du photographe, R. Deval. Et le nom de la ville, Lyon. Lyon-sur-Mer, peut-être.
Isidore, en effet, avait retourné le carton et lisait cette petite note de sa propre écriture. R. Deval, 3-4, Lyon. Il garda le silence durant quelques minutes et reprit. « Mon père ne vous avait pas encore fait voir cet instantané ?»«
Ma foi, non. Et ça m'a étonné quand j'ai vu ça hier, car votre père nous parlait si souvent de vous. »
Un nouveau silence, très long. Froberval murmura.
« C'est que j'ai affaire à l'atelier. Nous pourrions peut-être bien rentrer. »
Il se tut. Isidore n'avait pas quitté des yeux la photographie, l'examinant dans tous les sens. Enfin, le jeune homme demanda « Est-ce qu'il existe, à une petite lieue en dehors de la ville, une auberge du Lion d'Or ?»«
Oui, mais oui, à une lieue d'ici. »«
Sur la route de Valognes, n'est-ce pas ?»«
Sur la route de Valognes, en effet. » »«
Eh bien, j'ai tout lieu de supposer que cette auberge fut le quartier général des Amis de Lupin. » C'est de là qu'ils sont entrés en relation avec mon père.
Quelle idée! Votre père ne parlait à personne, il n'a vu personne.
Il n'a vu personne, mais on s'est servi d'un intermédiaire.
Quelle preuve en avez-vous?
Cette photographie.
Mais c'est la vôtre.
C'est la mienne, mais elle ne fut pas envoyée par moi. Je ne la connaissais même pas. Elle fut prise à mon insu dans les ruines d'Ambrumésie. Sans doute par le greffier du juge d'instruction, lequel était, comme vous le savez, complice d'Arsène Lupin.
Et alors?
Cette photographie a été le passeport, le talisman grâce auquel on a capté la confiance de mon père.
Mais qui a pu pénétrer chez moi?
Je ne sais, mais mon père est tombé dans le piège. On lui a dit, et il a cru, que j'étais aux environs et que je demandais à le voir, et que je lui donnais rendez-vous à l'auberge du Lion d'Or.
Mais c'est de la folie tout ça. Comment pouvez-vous affirmer?
Très simplement, on a imité mon écriture derrière le carton, et on a précisé le rendez-vous. Route de Valognes, 3 400 km, auberge du Lion. Mon père est venu, et on s'est emparé de lui, voilà tout.
Soit, soit, j'admets, les choses se sont passées ainsi. Mais tout cela n'explique pas comment il a pu sortir pendant la nuit.
Il est sorti en plein jour, quitte à attendre la nuit pour aller au rendez-vous.
Mais nom d'un chien, puisqu'il n'a pas quitté sa chambre de toute la journée d'avant-hier.
Il y aurait un moyen de s'en assurer. Courez au port, Froberval, et cherchez l'un des hommes qui était de garde dans l'après-midi d'avant-hier. Seulement, dépêchez-vous si vous voulez me retrouver ici.
Vous partez donc?
Oui, je reprends le train.
Comment? Mais vous ne savez pas. Votre enquête...
Mon enquête est terminée. Je sais à peu près tout ce que je voulais savoir. Dans une heure, j'aurai quitté Cherbourg. Froberval s'était levé. Il regarda Beautrelet d'un air absolument ahuri, hésita un moment, puis saisit sa casquette.
« Tu viens, Charlotte ?»«
Non, j'aurai encore besoin de quelques renseignements. Laissez-la moi. Et puis nous bavarderons. Je l'ai connue toute petite. » Froberval s'en alla. Beautrelet et la petite fille restèrent seuls dans la salle de l'estaminet. Des minutes s'écoulèrent. Un garçon entra, emporta des tasses et disparut. Les yeux du jeune homme et de l'enfant se rencontrèrent. Et avec beaucoup de douceur, Beautrelet mit sa main sur la main de la fillette. Elle le regarda 2 ou 3 secondes, éperdue comme suffoquée. Puis, se couvrant brusquement la tête entre ses bras repliés, elle éclata en sanglots. Il la laissa pleurer, et au bout d'un instant lui dit « C'est toi qui as tout fait, n'est-ce pas? C'est toi qui as servi d'intermédiaire? C'est toi qui as porté la photographie? Tu l'avoues, n'est-ce pas? Et quand tu disais que mon père était dans sa chambre avant-hier, tu savais bien que non, n'est-ce pas? Puisque c'est toi qui l'avais aidé à sortir. » Elle ne répondait pas. Il lui dit « Pourquoi as-tu fait cela? On t'a offert de l'argent, sans doute. De quoi t'acheter des rubans, une robe? » Il décroisa les bras de Charlotte et lui releva la tête. Il aperçut un pauvre visage sillonné de larmes, un visage gracieux, inquiétant et mobile de ces fillettes qui sont destinées à toutes les tentations, à toutes les défaillances. Allons, c'est fini, n'en parlons plus. Je ne te demande même pas comment ça s'est passé. Seulement, tu vas me dire tout ce qui peut m'être utile. As-tu surpris quelque chose? Un mot de ces gens-là? Comment s'est effectué l'enlèvement? Et elle répondit aussitôt. En auto! Je les ai entendus qui en parlaient. Et quelle route ont-ils suivi? Ah ça, je ne sais pas. Ils n'ont échangé devant toi aucune parole qui puisse nous aider? Aucune. Il y en a un, cependant, qui a dit « Il n'y aura pas de temps à perdre. C'est demain matin à 8h que le patron doit nous téléphoner là-bas. » Où là-bas? Rappelle-toi, c'était un nom de ville, n'est-ce pas? Oui, un nom comme Château... Châteaubriand, Château-Thierry... Non. Châteauroux? C'est ça, Châteauroux. Beautrelet n'avait pas attendu qu'elle eût prononcé la dernière syllabe. Il était debout déjà, et sans se soucier de Froberval, sans plus s'occuper de la petite, tandis qu'elle le regardait avec stupéfaction, il ouvrait la porte et courait vers la gare. Châteauroux, madame. Un billet pour Châteauroux.
Parlement et Tours?
Demanda la buraliste. Évidemment, le plus court. J'arriverai pour déjeuner.
Ah non!
Pour dîner, pour coucher.
Ah non, pour ça, il faudrait passer par Paris. L'express de Paris est à 8h. Il est trop tard.